France Culture, Le Grand Tour, Le Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours dans le Pas-de-Calais pour découvrir avec vous ce soir la nouvelle exposition du Louvre, ici à Lens. Exposition qui veut explorer les mondes souterrains et nous promet un voyage vers l'obscurité, puis après, on l'espère, le retour à la lumière.
Chers visiteurs, aujourd'hui, à 11h, partez en visite guidée avec un conférencier du musée et découvrez les plus beaux chefs-d'œuvre de la Galerie du Temps. Une visite incontournable. Réservation et place en billetterie.
Très bien, enchanté, bonjour. Et bien effectivement, je suis Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine, directeur du Mudo Musée de l'Oise à Beauvais et l'un des trois commissaires des mondes souterrains, l'une des trois têtes de Cerbère.
Alors, monde souterrain, c'est l'exposition du Louvre-Lens pour cette saison printanière. Est-ce que, avant qu'on rentre dans l'exposition et que vous nous fassiez visiter, vous pourriez nous dire quelles ont été les problématiques et les enjeux que vous avez voulu traiter dans cette exposition ?
Alors c'est une exposition qui a été voulue il y a quelques années à l'arrivée de Marie Lavandier. En toute logique, le Louvre-Lens étant implanté sur un ancien site minier, la dimension souterraine est vraiment prégnante ici dans l'ADN du musée. Et c'est ce fil conducteur qui a été tiré à l'origine par les équipes du musée. On a souhaité proposer un parcours qui soit véritablement comme un récit, une véritable narration, et voire même un récit initiatique qui permette d'emmener le visiteur à la découverte des différents aspects du monde souterrain, tantôt obscur et effrayant, inquiétant, tantôt merveilleux, lumineux, germinatif. Donc on oscille toujours entre ces deux volets, entre Thanatos et Eros, d'une certaine manière.
Bon, bah maintenant vous nous avez donné envie, on y va ?
On y va. Alors on se retrouve dans ce sas d'introduction, ce couloir d'introduction qui est une évocation de l'antre de la Sibylle, qui était donc dans l'Antiquité gréco-romaine, le refuge, le sanctuaire de cette prophétesse qui, du plus profond des entrailles de la terre, révélait ses oracles aux mortels qui venaient la consulter. Et c'est par cette évocation et cette descente assez douce finalement qu'on invite le visiteur à partir à la rencontre du monde souterrain, de toutes ses réalités et de tous ses habitants aussi, car ils sont nombreux. Alors là, on est en train de traverser effectivement cet antre de la Sibylle et peut-être qu'on entend derrière moi des bruissements, des bruits de chauve-souris, des gouttes de stalactites, des gouttes d'eau qui tombent de stalactites. Donc ici, on descend vraiment à la rencontre de la Sibylle. Et la Sibylle, elle était très importante pour nous. On voulait vraiment que ce soit le personnage introductif qui puisse initier, vraiment au sens propre du terme, le visiteur à ce voyage, puisque la Sibylle dans l'Antiquité était cette prêtresse qui résidait sous terre. Elle en était la gardienne des accès au monde souterrain. Et quand on plonge dans la littérature, notamment chez Virgile dans l'Énéide, c'est elle qui va initier justement Énée au voyage souterrain et lui révéler les secrets de ces mondes invisibles. Le visiteur est un peu comme Énée finalement et il est obligé de partir à la rencontre de cette guide qui va l'initier à l'ensemble des mystères souterrains.
Voilà, changement d'ambiance, on entre dans une salle avec des grands formats de peinture.
Effectivement, ici dans cette première salle, et bien justement l'idée est de présenter ces différentes réalités du monde souterrain et surtout comment est-ce qu'on accède au monde souterrain et quelles sont les portes d'entrée, les ports de la terre que l'humanité a pu observer depuis des temps immémoriaux et comment surtout les artistes les ont représentés. On va se retrouver ainsi confronté à des failles, à des gouffres, à des grottes, à des cavernes qui plantent le décor d'une certaine manière et qui dans le même temps interrogent d'un point de vue de l'histoire de l'art, puisque par définition ce monde souterrain auquel on accède par des grottes, des cavernes, etc. C'est un monde obscur dans lequel il n'y a pas la lumière du jour et ça pose problème pour le peintre, l'artiste qui veut représenter ces univers. Comment est-ce qu'il le fait ? Eh bien, il va se situer toujours au point de bascule sur le porche, d'une certaine manière, du monde souterrain, à l'entrée de la grotte, à l'entrée de la caverne et en perspective, je dirais, dans cette première salle, le très grand gouffre de Paul Huet qui nous a été prêté par le musée d'Orsay qui commence à aller plus plus loin encore dans la réflexion et la découverte, puisque ce n'est pas simplement la représentation d'une faille ou d'une caverne. On a certes cet élément qui est représenté, mais on a surtout l'inquiétude générale qui se dessine tout autour, avec des cavaliers qui sont apeurés, des chevaux qui piaffent, des oiseaux de proie qui émergent de cette faille, signe que peut-être justement dans ces tréfonds se nichent des choses pas forcément recommandables ou assez inquiétantes. On est vraiment dans cette idée d'être dans un parcours qui va être évolutif et qui va aller de l'ombre vers la lumière. Et ici, on entame la descente aux enfers. Dans cette thématique qui nous permet effectivement de descendre de plus en plus profond vers les enfers avec une traversée dans le règne des cauchemars finalement, et cette question de l'enfermement, de garder prisonnier sous terre tout ce qui est considéré comme une menace, plutôt que de dire que c'est garder sous terre ce qui est une menace, c'est garder loin de la lumière, en fait, ce qui pourrait créer la disharmonie du monde. On évoque cette thématique avec différentes références aux cachots, aux prisons, aux oubliettes, avec notamment cette magistrale, mais vraiment
magnifique,
j'insiste,
série,
magistrale
oui.
série des prisons imaginaires de Piranèse, qui, alors, sans être stricto sensu, totalement souterraines, sont finalement des représentations fantasmées d'univers carcéraux, privés de lumière, totalement tourmentés, avec des agencements de colonnes, de passerelles, de poulies, de choses d'assez fou finalement, qui trahit cette idée que finalement dans un univers invisible, qu'il soit souterrain ou isolé de la lumière, eh bien c'est le meilleur endroit quelque part pour venir enfermer ce que l'on ne peut pas voir, ce que l'on ne veut pas voir, ce qui ne doit pas être vu. On arrive ici dans le royaume des morts, avec l'évocation des différents rituels funéraires qui ont été pratiqués de longue date, aussi bien dans les civilisations égyptiennes, gréco-romaines, et par la suite en Europe dans les sociétés chrétiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir dans le cadre de cette exposition ce monumental sarcophage, le sarcophage de Sépi prêté par le musée du Louvre, qui est très intéressant puisque à l'intérieur, en plus de la représentation traditionnelle de tout le trousseau nécessaire aux défunts dans les conceptions religieuses égyptiennes, on a la chance d'avoir au fond de la cuve deux cartes qui sont des plans permettant aux défunts d'emprunter la bonne route pour atteindre le royaume d'Osiris et espérer une résurrection. Comme ce décor est peint au fond de la cuve, on a aménagé une petite plateforme sur le côté du sarcophage pour permettre...
On peut monter pour voir, parce que
exactement.
C'est dans une vitrine de verre, un grand cube de verre. Ah oui, en effet, il y a des petites marches. Et là, on peut voir par-dessus.
Vous avez ici, sur la gauche, deux lignes, deux cartes, l'une plutôt bleue, l'autre plutôt noire. Des couleurs qui renvoient à une voie maritime, l'autre à une voie terrestre. En gros, on indique au défunt quel chemin il doit emprunter pour être sûr de ne pas se perdre sous terre et être sûr d'atteindre le tribunal d'Osiris. On descendait dans les monts souterrains par l'entrée de la Sibylle, on remonte par le métro qui est présent dans la scénographie. On aimerait que toutes les rames de métro soient comme celles que l'on est en train de traverser. Et on remonte à la lumière avec une conclusion en deux temps d'une certaine manière, liée pour partie au métro, puisqu'on a eu la chance de rencontrer un artiste assez extraordinaire qui s'appelle Fantin Leroux et qui est un voyageur du monde souterrain. Il a une habitude particulière, chacun ses hobbies, de descendre effectivement sous le sol de Paris, dans les galeries du RER, du métro. Il y réalise des petites vidéos, des photographies, et en l'occurrence, il nous a proposé ce qu'il a appelé les constellations, tirées de son traité de cosmologie souterraine, où en fait, on voit qu'il a assemblé, dans une espèce de cartographie très très proche de celle des étoiles, des petites billes qui sont en fait des photographie à 360 degrés hein, qu'il a réalisé en contre-plongée directe depuis ses voyages souterrains dans le réseau parisien, et qui, ici assemblé sur le panneau, dresse là aussi une carte et pose la question quelque part, puisqu'il y a des étoiles, des constellations au-dessus de nos têtes, est-ce qu'il n'y en aurait pas aussi sous Terre? Et c'est ce qu'on pose comme question, est-ce que finalement ce qui est en bas ne serait pas comme ce qui est en haut? C'est une citation qui date du 9e siècle et qui n'est pas une réponse que nous apportons aux visiteurs, c'est vraiment une question qu'on pose ici.
Merci beaucoup pour cette visite, ça donne très envie et de descendre dans les mondes souterrains, mais aussi de remonter.
Oui, complètement.
Merci.
Merci à vous.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, direction 3, dans l'Aube, où nous nous intéresserons à la restauration des vitraux de Notre-Dame.
Merci Marie et à demain.